Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, bienvenue à tous à la une de cette édition. La révision des listes électorales est en cours dans le pays depuis un mois, mais l'affluence dans les centres n'est pas à hauteur des attentes selon les responsables. Qu'est-ce qui explique cette faible affluence? On en parle dans cette édition. Après la publication des orientations des admis ODF, la réorientation s'impose pour certains, une situation qui provoque la cacophonie au ministère de l'Éducation nationale et dans certains établissements. Célébration de la journée internationale ce 29 octobre de lutte contre les AVC. Quelles sont les manifestations qui peuvent être victimes d'AVC? La réponse dans cette édition qui vous sera présentée par Assetou Kanté. Révision des listes électorales un mois après le début des opérations. L'affluence reste timide dans les centres. Cette révision, qui comprend plusieurs étapes, devrait se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Mais l'inscription de nouveaux majeurs, les radiations ou encore les transferts devraient prendre fin ce 31 octobre. Où en sommes-nous avec cette opération? Cette révision est-elle bien suivie par les citoyens? Sinon, quelles en sont les raisons? Notre reporter Mamadou Samasekou a fait un tour dans les centres suivant son reportage.
Nous sommes à la mairie principale de la commune industrielle de Bamako. Ici, au moins plus de 219 000 personnes inscrites sur la liste électorale. Les opérations de révision ont débuté à la date indiquée, mais le centre cherche désespérément des usagers. Or, la présente révision doit permettre d'actualiser cette liste, explique le secrétaire général de la mairie de la commune 1, Amadouba.
La révision se traduit par les radiations, les transferts, la validation des nouveaux majeurs. Non, les radiations, ce sont les personnes qui sont décédées et qui ont perdu leur droit de vote. Ce sont ces personnes qui sont radiés du 1er octobre au 31 octobre. Donc, normalement, c'est assujetti à la présentation d'un certificat de décès. Ainsi, pour les réclamations, après les réclamations maintenant, on revient au résultat des réclamations qu'on traite.
L'affluence timide dans les centres est-il liée au manque d'informations ou de sensibilisation? Selon ce représentant du parti politique, membre de la commission de révision des listes électorales, la population est de moins en moins motivée sur tout ce qui est lié aux élections. Ali Yalkoui.
On avait commencé les dés jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, les gens viennent un peu seulement. Il n'y a pas eu d'effet pour le moment. Ils ont déjà informé les bases. On a lancé l'appel à certaines radios privées. Bon, les gens même là où nous sommes là, ils n'ont pas assez motivés. Ils sont découragés même de l'élection.
Au moment de notre passage en commune 1, un seul citoyen était venu pour les besoins de cette révision de liste électorale. Administrateur civil à la retraite, il n'est pas surpris par le manque d'affluence.
De tout temps, en ce qui concerne cette révision, l'affluence a été faible. Je crois qu'il faut continuer à sensibiliser afin qu'ils puissent venir vérifier en tout cas leur existence sur la liste électorale. Parce que c'est la seule condition pour pouvoir voter aux élections à venir.
Face à cette situation, les autorités lancent un appel à la population. Selon elles, le processus n'a aucun sens sans l'adhésion massive des citoyens.
Plus d'un million de nouveaux majeurs n'ont pas pu voter lors des élections précédentes. Motif, ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Le constat est fait par l'Association de jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie qui vient de lancer une campagne de sensibilisation des 10 jours dans ses zones d'intervention. Cette campagne qui a débuté le 21 octobre dernier vise à sensibiliser les citoyens sur la révision des listes électorales en cours, notamment pour l'inscription et la validation des noms des nouveaux majeurs, les cas de transfert et les radiations. Adam Diko est la présidente de l'AGICAD, elle est jointe par Maman Babakunta.
C'est une campagne d'assistance citoyenne. Donc, la campagne consiste à faire des porte-à-porte, aussi aller dans les lycées, dans les universités et dans les marchés pour sensibiliser les populations par rapport à la révision de la liste électorale. Et l'autre chose, c'est qu'on fait aussi une campagne d'assistance téléphonique, c'est-à-dire on a mis des numéros verts à la disposition des populations où les gens bipent et après les agents d'assistance les rappellent pour leur donner les informations adéquates par rapport à la révision de la liste électorale. Après cette campagne, les actions que nous voudrons bien mener, ça c'est par rapport au RAVEC, parce que durant cette campagne, la plupart des doléances des populations, c'est par rapport à l'enrôlement pour le RAVEC. Beaucoup ne sont pas sur la liste électorale parce qu'ils ne se sont pas fait enrôler. Et il y a beaucoup de zones aussi où les machines d'enrôlement sont en panne. Donc après cette campagne, nous allons voir avec le ministère quelle assistance citoyenne nous pouvons faire pour que les personnes qui n'ont pas été enrôlées puissent se faire enrôler.
Retrouvez toute l'actualité du Mali article du programme de Studio Tamani sur WhatsApp au 76 62 88 51. Nouveau tête-à-tête entre le président Ibeka et le chef des files de l'opposition Soumaïla Cissé, c'était hier lundi aux environs de 19h. Pour le moment, on ignore ce que les deux hommes se sont dit dans leur entretien. Contacté par notre rédaction, Soumaïla Cissé n'a pas souhaité commenter ce qui a filtré de cet échange avec Ibeka, mais selon plusieurs sources, le président et son principal challenger à l'élection présidentielle de 2018 ont longuement discuté des sujets brûlants de l'actualité, notamment le dialogue politique inclusif, boycotté par une partie de l'opposition. Je vous l'annonçais dans les titres, des nouveaux lycéens qui tentent une réorientation. Cela se passe au ministère de l'Éducation nationale depuis ce lundi, le vendredi dernier, à la suite de la publication officielle de la liste d'orientation des candidats heureux du DF 2019. Certains demandent à revoir leur situation entre le retard pris dans la publication de ces orientations et les procédures pour la réorientation. Certains nouveaux lycéens subissent une forte pression. Notre reporter Lundi Moussa Diallo s'est rendu dans certains établissements. Voici son reportage.
Ça, c'est le cas de réorientation.
Nous sommes au ministère de l'Éducation nationale du Mali à Bamako. Ils sont nombreux des admis au diplôme d'études fondamentales DF ou des parents d'élèves qui tentent un transfert. Pour certains, il s'agit de changer de lycée. Pour d'autres, il faut quitter d'un lycée à un établissement professionnel. Selon eux, la publication officielle de la liste des orientations avec un peu de retard fait monter la pression car les cours vont commencer incessamment.
Je suis là pour voir comment gérer la situation du transfert de mon enfant que je souhaite être au professionnel section électricité.
On m'a orienté dans un lycée qui n'était pas de mon choix, donc je suis venu pour une réorientation.
Vous avez été orienté dans quel lycée?
Le lycée Banassou. On m'a dit que c'est à Boulibana. Je suis de Kalabankoro.
Vous voulez aller dans quel lycée?
Le lycée Notre-Dame.
Malheureusement pour cette jeune fille, ce lycée auquel elle fait allusion, Notre-Dame du Niger, est presque en manque de place, si l'on en croit au proviseur Sœur Denise Kodjo.
Nous sommes d'abord en manque de salles de classe, ça c'est depuis des années. Et là, cette année, en orientation, nous ne savons pas combien on va nous envoyer. Elles sont autour de 1600.
Quels sont les critères qui ont prévalu à ces orientations? Difficile de répondre à cette question, car au ministère de l'Éducation nationale, les responsables chargés des transferts et orientations n'ont pas souhaité répondre à nos différentes sollicitations. Au lycée Askia Mohamed de Bamako, le proviseur a déjà une idée des élèves qui sont affectés dans son lycée. Pour lui, le scénario du transfert n'a pas encore commencé. Les dépôts de demandes n'ont encore débuté. Mahaman Kamara, proviseur du lycée Askia Mohamed de Bamako.
Il s'agit d'aller dans l'établissement d'origine avec un parent. Il y a une fiche de transfert, on vous remet ça, vous remplissez la fiche. La fiche est signée et par l'élève et par le parent. Donc après cela, elle revient au proviseur et cela appose sa signature. On achemine ça à l'académie, c'est de l'académie que ça va au cabinet.
En attendant, les nouveaux lycéens se bousculent dans les établissements. Certains sont heureux de retrouver le chemin de l'école.
Parlons à présent de sécurité. Le chef de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi a été tué dans un raid de l'armée américaine en Syrie. L'annonce a été faite dimanche par le président des États-Unis. Que peuvent être les conséquences de cette mort? La disparition du leader djihadiste va-t-elle anéantir son Daesh? Quel sera l'impact de cette mort sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Mamadou Djouara est chercheur sur les questions de sécurité au cabinet Gaïa. Écoutons son analyse au micro de Mohamed Ali Ag Aleida.
Il faut dire que les organisations terroristes qui opèrent dans le Sahel ne sont pas nées de l'État islamique. C'est des organisations qui sont nées selon un contexte local avec des ramifications très généralement avec Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes ailleurs dans le monde, mais qui à un moment donné ont créé des relations, des accointances avec l'État islamique pour des besoins de survie. Du moment que ces organisations ne sont pas nées de l'initiative de l'État islamique et qu'elles tirent leurs sources du milieu local, leurs forces de d'autres organisations terroristes qui ne sont pas l'État islamique, eh bien la mort d'al-Baghdadi ne réduira pas leur champ d'action. Par contre, certains combattants qui étaient affiliés à al-Baghdadi, si son organisation n'arrive pas à lui survivre, pourraient justement se trouver massivement déversés dans ces groupes avec lesquels ils avaient déjà entretenu un certain nombre de relations. Et donc, on pourrait se retrouver avec des armes, des hommes, des munitions et de la logistique en plus. Et ça pourrait aggraver la situation dans le Sahel.
Sur un tout autre sujet, l'accident vasculaire cérébral est une cause de mortalité ces temps-ci. L'hypertension, les maux de tête interminables sont entre autres les causes d'un AVC. Comment éviter alors un accident vasculaire cérébral? Quelles sont les personnes ciblées à l'occasion de ce 29 octobre, journée internationale de lutte contre les AVC? Studio Tamani s'intéresse à la question, suivant ce reportage de Mariam Koulibaly.
Selon les spécialistes, un accident vasculaire cérébral peut être le plus souvent un arrêt brutal de la circulation du sang dans une zone du cerveau. Des lésions se forment et entraînent la paralysie d'une partie du corps, des difficultés à parler, voire un coma où la mort peut survenir. Il existe deux sortes d'AVC, nous explique Dr Alain Adama Dambélé, médecin généraliste.
Au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau, ces vaisseaux sanguins seront gorgés de sang. Ça va faire une pression qui va dépasser leur résistance. Cette pression-là va faire péter les vaisseaux sanguins à la longue. Donc c'est ce qu'on appelle AVC hémorragique. Il y a l'autre type, ça c'est l'AVC ischémique. Souvent c'est des caillots de sang qui peuvent boucher les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau.
Un accident vasculaire cérébral peut avoir plusieurs symptômes. Des maux de tête accompagnés de vertiges, des bruits de vent dans l'oreille dont on ne prête pas généralement attention.
Les gens qui font des AVC hémorragiques, souvent il y a des cas où ce n'est pas dans le cerveau que ça se passe. Et quand ils ont la chance, c'est les vaisseaux sanguins du nez qui pètent. Et là, c'est ce qui peut sauver le malade. Mais l'autre cas aussi, ischémique, ça c'est souvent des pertes d'équilibre tout d'un coup et puis c'est brusque. Ça peut venir comme ça.
Tout le monde peut être victime d'un AVC, mais les jeunes sont plus visés par la forme ischémique.
L'AVC le plus souvent hémorragique, on rencontre ça chez les vieilles personnes. Mais l'AVC ischémique, plus souvent, c'est des AVC qui arrivent même chez les jeunes plus que chez les vieux. Le fait qu'il y a les fumeurs, les gens qui ont une alimentation trop carnée, avec beaucoup de viande.
En cas d'AVC, la prise en charge rapide peut sauver des vies. Aussi, il faut pratiquer une activité sportive, avoir une alimentation équilibrée et consommer moins les excitants.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
18h passées de 11 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à notre écoute dans un instant, le magazine.